Le Forum de l'aménagement durable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo et Radio Territoria. Nous sommes toujours en direct de la Porte de Versailles pour cette seconde journée au Forum de l'aménagement durable avec l'UNAM, l'Union Nationale des Aménageurs. Et j'ai le plaisir d'être avec Antoine Cellier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable du pôle résidentiel à la direction marketing et partenariat pour GRDF. Tout le monde connaît GRDF, mais... peut-on savoir exactement quel est le rôle du pôle résidentiel? Quelle est votre fonction?
Tout à fait. GRDF, premier réseau de distribution de gaz de France, mais au-delà de ce rôle d'exploitation du réseau, de réseau de distribution qui appartient aux communes, notre mission est d'accompagner toute la filière de l'immobilier, les aménageurs, les promoteurs immobiliers, les bailleurs sociaux, les constructeurs de maisons, pour les éclairer sur les solutions de décarbonation. Voilà, donc aujourd'hui, notre infrastructure, elle est là, mais elle est aussi porteuse de solutions de décarbonation. Et notre travail d'animer la filière de l'immobilier pour justement apporter des leviers de décarbonation, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le bâtiment est face à de sacrés enjeux.
Alors, le gaz, on en a beaucoup parlé au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est vrai que la Russie était un gros importateur en France. On s'est retrouvé, on a cru qu'on allait être privé de gaz pendant un ou deux hivers. Voilà. Alors, c'est là qu'on a beaucoup parlé de ce gaz et qu'on a accéléré, enfin en tout cas que le gouvernement a dit qu'on allait accélérer les énergies renouvelables, le gaz vert par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs ce qu'est le gaz vert, à la différence du gaz qu'on connaît traditionnel?
C'est vrai que cette crise énergétique tragique, elle a permis de mettre en lumière un atout extraordinaire. On a un atout considérable en France, c'est qu'on a un gisement de biodéchets agricoles, urbains, considérable, qui est une source de matière, de biomatière, pour faire du gaz vert, qu'on appelle aussi biométhane.
Donc c'est du méthane en fait, c'est la molécule...
C'est la même molécule que le gaz fossile, ouais. Sauf qu'en fait il est produit par fermentation.
Ouais.
Donc ce sont des bactéries qui en fait mangent les déchets.
Et ça se décompose.
Voilà.
Et ça émet des gaz.
Voilà, c'est
du gaz, du méthane, du coup.
Bactéries anaérobies. Et donc, ces bactéries, en mangeant la biomasse, produisent du méthane qui est réinjecté dans le réseau. Donc, on a ce gisement extraordinaire en France qui était inexploité. Donc, aujourd'hui, on a 600 méthaniseurs en France. En 5 ans, on a réussi à développer toute une filière. On a une production de gaz qui est équivalente à 2 réacteurs nucléaires. Donc on a réussi quelque chose d'assez extraordinaire. Et aujourd'hui, ça représente 3% du gaz qui est dans le réseau. Et notre ambition, c'est
dans le réseau français,
sur le réseau français, notre ambition en 2030, c'est d'atteindre les 20%.
D'accord.
Et on peut y arriver.
C'est réalisable, oui.
C'est tout à fait réalisable parce qu'on a un potentiel en France où on peut faire 100%. On sait qu'on peut atteindre les 100% en 2050.
D'accord. Oui, en 2050. Et oui, parce qu'en fait, c'est facile. C'est des déchets. En fait, il faut juste utiliser les déchets. Alors, justement, les méthaniseurs dont vous parlez, en quoi ça consiste? Est-ce que c'est des grosses usines? Est-ce que c'est. Et ouais. Où peuvent-elles être situées sur notre territoire?
Alors, aujourd'hui, donc, il y en a à peu près 700 en France.
Il y en avait combien juste avant la guerre en Ukraine?
Bon, il y en avait 500 il y a 2 ans. Ça se développe très vite.
Ouais.
Et en fait, aujourd'hui, c'est un modèle de méthanisation agricole. Donc, si vous vous promenez dans la campagne française, aujourd'hui, il y a vraiment des régions agricoles où vous voyez, ça ressemble à des yourtes, une espèce de dôme. Donc, souvent, c'est dans des exploitations agricoles. Une installation de biométhane, c'est 2 hectares.
Donc, c'est pas très grand.
Pas très grand. Et en fait, ça permet de méthaniser 10 000 tonnes de déchets. D'accord. Voilà. Et derrière, ça permet d'alimenter plusieurs milliers de logements. Donc, c'est connecté sur notre réseau. Donc, c'est assez simple. En fait, la technologie est très simple. Il n'y a pas vraiment de grandes innovations. C'est quelque chose qui existait depuis longtemps. L'Allemagne était très en avance sur nous, le Danemark aussi.
Oui.
Donc, quelque part, en France, on a intégré cette technologie. La filière agricole s'en est saisie. Et aujourd'hui, on a cette production qui est présente dans notre paysage, ces méthaniseurs. Et aujourd'hui, ce qu'on voit se développer, c'est aussi la méthanisation dans les stations d'épuration.
D'accord.
Parce que nos villes, les eaux usées génèrent...
Ça dégage aussi des gaz.
En fait, les boues, beaucoup de boues de stations d'épuration sont méthanisables. Donc aujourd'hui, il y a aussi dans les villes des stations d'épuration qui mettent en place des stations de méthanisation. Et enfin, dernier volet, c'est les biodéchets. Depuis le 1er janvier 2024, il y a obligation de trier les biodéchets dans votre poubelle. Donc les communes sont en train de le mettre en place.
Oui. C'est vrai qu'on voit de plus en plus apparaître les bennes à biodéchets.
Ces biodéchets, en fait, ils sont collectés et méthanisés et ils font du gaz vert.
D'accord. Juste au niveau du raccordement, là, quand on parle de méthaniseurs qui sont mis en place, est-ce que ça va nécessiter des gros travaux pour raccorder ces méthaniseurs au système déjà existant ?
Alors non, en fait, parce que notre réseau, il est déjà très bien maillé. On a la chance en France d'avoir un réseau gaz qui est très, très bien maillé. Et souvent, on tire un tuyau de 10 à 15 km pour raccorder le méthaniseur. Mais voilà, après notre réseau, il fait 200 000 km. C'est pas compliqué, en fait. C'est pas compliqué. Donc ça se passe très bien. Le modèle économique fonctionne très bien. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Et aujourd'hui, 2 réacteurs nucléaires. Donc c'est une belle réussite. Et tout notre enjeu aujourd'hui, c'est de se dire, OK, il y a cette production de gaz vert, mais de l'autre côté du tuyau, il faut que cette production de gaz vert soit valorisée.
Oui.
Et dans les projets d'aménagement, dans les projets de promotion immobilière, dans la rénovation du patrimoine des bailleurs sociaux, eh bien aujourd'hui, une fois que vous avez rénové le bâti, une fois que vous avez rénové la chaufferie, on peut encore aller plus loin dans la décarbonation si dans cette chaufferie, vous avez le gaz vert qui est pris en compte. Voilà.
Et alors justement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même un manque de communication, un manque de pédagogie par rapport à cette énergie ? Parce que c'est vrai que vous l'avez dit, ça représente, c'est une part très très faible du secteur. Comment faire ? Alors j'imagine venir à ce genre d'événement, mais comment démocratiser le gaz vert ?
C'est un vrai enjeu. Et du coup, la collecte des biodéchets, c'est une façon de sensibiliser les citoyens français parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont acteurs d'une économie circulaire.
Alors beaucoup, je vous rassure, ne savent pas pourquoi il y a ça qui est mis en place.
Il y a du travail.
Mais voilà, il faut le rappeler.
Et en avril, on va lancer une campagne TV, une campagne télé avec un spot publicitaire justement pour expliquer au grand public que effectivement, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, on a du gaz vert. Et que du coup, on peut en fait avoir une chaudière dans un logement. Il ne faut pas regarder ça comme un équipement fossile. Il faut le regarder qu'en fait comme un équipement qui peut consommer une énergie renouvelable. Voilà.
Et alors les Français sont très regardants en ce moment des prix avec l'inflation, ce qui descend petit à petit grâce à la politique monétaire menée par la BCE. Mais c'est vrai qu'on a connu une grosse période inflationniste où l'énergie, avec une crise énergétique, où le prix de l'énergie avait fortement augmenté, le prix du gaz, malgré le bouclier tarifaire. Qu'en est-il du prix du gaz vert par rapport au gaz traditionnel ?
Alors le gaz vert est plus cher que le gaz traditionnel. Ça, c'est une certitude, parce que c'était une énergie renouvelable. C'est pour ça que nous, l'idée, si vous voulez, c'est que ce gaz vert qui va être consommé dans les bâtiments aujourd'hui et demain, il est dans des bâtiments performants. Parce que ça n'a aucun intérêt qu'on mette du gaz vert dans des bâtiments qui sont des passoires.
Ouais.
Donc notre objectif, c'est que la décarbonation, c'est pas seulement amener du gaz vert dans le bâtiment, c'est rénover les bâtiments, consommer le moins possible d'énergie. Et après, il y a ce juste besoin d'énergie. En face, on met une énergie renouvelable. Et là, du coup, quand on baisse considérablement les consommations, le fait que le gaz vert soit un peu plus cher, quand on raisonne à la fin en termes de charge pour l'occupant, on retombe sur nos pieds.
Et est-ce que le prix ne va pas baisser dans 2030, 2050, quand il y aura beaucoup plus de méthaniseurs, est-ce que ça va impacter le...
Ça va impacter les coûts de production, mais... Il faut savoir quand même que ce qui est terrible dans toute cette histoire, c'est que l'énergie fossile, le gaz fossile, n'est pas cher. Il est très, très peu cher. Aujourd'hui, il est à 30 € le mégawatt-heure sur les marchés. C'est un prix qui est très faible. Et aujourd'hui, le coût de production du gaz vert le plus bas qu'on ait pu observer dans des pays où ils sont très en avance, c'est de l'ordre de 65 € le mégawatt-heure.
Ah oui.
Donc, du coup, le débat... En fait, on voit que le sujet, c'est plutôt la décarbonation. Et surtout, il ne faut pas s'arrêter sur ce sujet du prix. Il faut comparer des choses comparables. Et comparer le gaz vert avec du gaz fossile, c'est le mauvais angle. C'est le mauvais angle parce que sinon, vous ne faites pas la transition énergétique. Vous restez sur l'énergie fossile, c'est ce qu'il y a de moins cher. Donc, il faut qu'on arrive à transformer ça. Et c'est pour ça que tout l'enjeu, c'est de décarboner en jouant sur la baisse de la consommation. Donc, il faut des bâtiments performants. Il faut rénover. Il faut construire. Les promoteurs immobiliers font des bâtiments RE2020 qui sont très, très performants, qui consomment très peu d'énergie. Et nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on joue le mix énergétique. Alors, le mix énergétique, c'est qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus sur des projets où, en fait, on hybride la chaudière avec une pompe à chaleur.
Oui.
Comme ça, l'été, la pompe à chaleur fonctionne, elle a un très bon rendement. Et l'hiver, quand il fait froid, ben, quand il y a justement l'hiver, l'électricité, c'est compliqué. La pompe à chaleur, elle n'a pas un bon rendement. Ou en hiver, l'électricité, il y a des effets de pointe. RTE nous dit, attention, il y a trop de consommation, etc. Et ben, les chaudières prennent le relais. Donc, on travaille sur des projets où vous avez la chaudière qui fait 30% du besoin, la pompe à chaleur fait 70% du besoin, et on est déjà dans la décarbonation.
Et c'est vrai que sur le marché, il y a beaucoup de constructeurs qui s'y mettent, hein, de faire.
Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, vous arrivez à capter le meilleur des énergies. Comme vous consommez l'énergie au bon moment, vous allez avoir les meilleurs prix d'énergie.
Oui.
C'est-à-dire que vous allez consommer l'électricité au bon moment, vous allez consommer le gaz au bon moment, et vous allez pouvoir capter le meilleur prix des énergies. Donc, on voit bien que, voilà. Tout ça, c'est un mix de solutions qu'on va combiner de manière très intelligente dans les bâtiments pour permettre de trouver la bonne équation entre décarbonation, performance du bâtiment, économie d'énergie et bon prix d'énergie.
Et quand on parle d'énergie renouvelable, alors il y a le gaz vert, est-ce qu'il y a d'autres énergies renouvelables et lesquelles ?
Ah ben, les énergies renouvelables dans le bâtiment, nous, on travaille beaucoup avec la filière du solaire, le solaire thermique. En fait, le solaire thermique, ça marche très très bien. Il faut avoir après un bon professionnel qui installe bien le matériel, un bon exploitant. Et aujourd'hui, on voit des résidences où vous avez du solaire thermique et 40%, 50% de l'eau chaude est faite par le soleil. Et ça marche très très bien.
Donc avec des panneaux photovoltaïques.
Voilà, panneaux photovoltaïques ou du solaire thermique. Voilà. Après, nous, on travaille aussi beaucoup avec. On peut aussi hybrider. Gaz et géothermie. On a des projets sur lesquels la géothermie apporte une partie de la chaleur et la chaudière vient apporter le complément. On travaille aussi sur la mixité avec le bois. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des chaudières bois qui sont couplées avec des chaudières gaz. Parce que le problème du bois, c'est le stockage du bois pour la chaufferie. Donc, on peut optimiser la taille de la chaufferie bois avec des chaufferies gaz. Donc on travaille, voilà, c'est ça qui est bien, c'est que le gaz est une énergie très souple.
Bien sûr.
Du coup, on peut jouer sur des combinaisons de solutions en fonction de l'énergie locale, qu'est-ce qui est le... Voilà. Donc ça, c'est notre force et on joue là-dessus pour pouvoir développer les énergies renouvelables sous toutes les formes.
Eh bien, en tout cas, c'est un pari très intéressant et qu'on a hâte de relever. Merci beaucoup, Antoine.
Merci beaucoup.
Cellier. À très vite sur nos antennes.
Merci, au revoir.
Le Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Immo et Radio Territoria.